Allez, bonjour à toutes et tous, petit audio pour décrire un petit peu ce document que je vous ai fait, ce petit compte rendu sur le Lavaredo. Allez, on est parti, voilà, une page de garde, une belle page de garde. Alors là, la photo, on était sur la toute dernière montée très raide, juste avant que je rattrape Pau Capel. Tac tac tac. Ce magnifique sommaire. Alors l'introduction, j'ai jugé bon de souligner que c'était la première fois depuis l'UTMB que je revenais en fait faire une nuit complète et que j'allais chatouiller des altitudes entre 2003 et 2005. Au niveau de plusieurs cols, ce que je n'avais fait que l'an dernier, bah, à Tignes bien sûr, et puis à l'UTMB, voilà. Et finalement, ça ne m'a causé aucun souci. Le départ à 23h, ça c'est assez pénible parce que vous attendez quand même longtemps, toute la journée. Même si, bon, au final, elle passe vite, mais quand t'as vraiment plus rien à faire, ouais, c'est un peu long 23h, puis c'est le moment où tu commences à bâiller après le repas du soir. Donc c'est pas top, j'aime pas trop, et d'ailleurs ça m'a perturbé un peu dans le début de la nuit. Sur la ligne de départ, écoutez, rien de très particulier, à part que c'était assez bien fait, puisque en fait vous aviez trois sas à l'avant, avec un différent niveau d'élite, puisque vous adorez ce mot, ça vous fait saliver. Et puis le gueux standard, voilà, le grassouillet, le sandant, voilà, on le foutait un peu derrière, tu vois, dans le tas. Je ne sais pas comment il y allait d'ailleurs. Mais sinon, pour ceux qui étaient à l'avant, ça représentait 200 dossards. Donc on n'est pas du tout sur des élites. Ça représentait 200 dossards, il y avait du jacouille un peu là-dedans, bien sûr. On rentrait par l'avant. Donc très simple, du logement. Je marche dans la rue et j'arrive sur l'heure de départ. Alors avec Omar, on est venu de manière extrêmement respectueuse à 15-20 minutes du départ. On était les premiers, alors que normalement, bah, il est demandé d'arriver une demi-heure avant. Bon, à l'UTMB, c'est un peu plus respecté, mais c'est le seul moment. Et on en voit pas mal qui arrivent dans les 5 dernières minutes, donc pas stressé quand même les garçons. À noter que sur ce Lavaredo, en fait, on avait un très faible plateau féminin, d'autant plus que Fiona Porte n'a pas pris le départ, elle qui était la grande favorite, et du coup, ouais, pour les femmes, on démarrait à 750 de cote à peu près, donc forcément, il y avait plutôt que des hommes à l'avant de la course, puisque là, par contre, on en avait plus de 30 qui étaient au-dessus de 800. Donc, Déroulé de la course, ça part pas très vite. Ça m'a étonné. Ça n'est pas parti très vite. Ce qui fait qu'en fait, j'étais tout de suite devant. Alors évidemment, il faut imaginer un groupe hein, qui se fait la portion de ville, là, 1,5 km en ville. Sur le plat, alors là, ça allait vraiment pas vite. On était à peine à 15 à l'heure. Et sur les, ça monte un peu à la sortie de la ville. Bah, mon cardio est légèrement monté, mais je n'éprouvais pas de difficulté particulière à rester avec la tête, quoi. Là. Je pense qu'on était un groupe d'une trentaine. Après, il commençait à y avoir des petites cassures. Et puis, on est arrivé dans la première côte. Alors, première côte qui est un peu pentue, en fait. Au début, vous êtes obligé, entre guillemets, enfin, en tout cas, tous les favoris l'ont fait, vous êtes obligé de marcher un peu sur une piste forestière très raide dans la forêt, et vous réatteignez une petite route, et là, bah, le groupe de tête se remet à courir. Alors, moi aussi, je me suis remis à courir, mais c'est le moment où j'ai dit à Aubin, on va pas trop insister, on va les laisser partir, parce que le cardio monte haut, là, au début. Et je me sentais, du coup, pas très bien dans cette bosse. Et c'est vrai que c'était un premier indicateur. Je pense qu'on l'a monté peut-être un petit peu trop vite, même si on a laissé partir devant. Il aurait fallu leur laisser sans doute un peu plus de champ. Je pense que sur cette section, perdre 2 ou 3 minutes serait un plus l'an passé, l'an prochain, enfin, ou une année où j'y reviendrai. il faudra que je prenne mon chrono en haut de la bosse et juste en bas, là, au moment donné où on marche, et que je me règle par rapport à ça. Par contre, après, tout le chemin qui nous amène au premier ravitaillement, voilà, je pense qu'on avait une allure tout à fait correcte. Que ce soit sur le plat, que ce soit dans la première descente, qu'on n'a pas non plus appuyé comme des sauvages, ou le faux plat montant qui amène jusqu'au ravitaillement après. Mais à mon avis, cette petite portion de montée raide, là, qui fait 3,5 km, je pense qu'il faut la courir un poil plus doucement. Voilà, peut-être alterner une marche-course, en fait, ça me semble plus judicieux pour mon niveau, et donc perdre 2 ou 3 minutes. Alors, c'est vrai que ce qui m'a amusé, c'est qu'en fait, quand j'ai décidé de freiner comme ça, il y a tout un groupe qui est parti, et j'avais bien vu que, ok, il y avait un noyau dur de 10 favoris, mais derrière, il y avait 10 apôtres, tu vois, qui suivaient bêtement. Et quand j'arrive au premier ravito, alors j'étais étonné déjà de tenir mes temps de passage, donc j'étais très heureux. Même si je me suis dit, bah tiens, c'est con, j'aurais pu laisser 2 minutes de plus à la faire. Mais j'étais étonné, ouais, parce qu'ils étaient pas trop en avance. En fait, eux sont partis un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu, hein, ça se jouait 1 minute, moins vite que l'an passé. Et avec moi, il y avait des gens de très bonne qualité. Hein. Antoine Lambois-Martin qui fait deuxième du Trail Nivolé Rovar et qui a, je me permets de le citer parce que j'ai couru très longtemps avec lui, et qui a d'autres références, notamment sur la Saint-Élion, à mon avis, il avait fait sixième, si mes souvenirs sont bons. Ah oui, il avait fait 14e du championnat de France l'an dernier. Non, il n'a pas fait la Saint-Élion, mais oui, voilà, il avait gagné le 100 km du Grand Raid du Guy Estroy Keras, qui a lieu ce week-end d'ailleurs. Il avait fait 2e de la Traversée Nord à l'Échappée Belle derrière le Belge Jérôme Van Der Schaag, devant Clément Barret et devant Théo Le Boudec. Donc il avait fait une bonne performance. Ça, c'était en 2022. Quelqu'un d'assez costaud, alors j'ai discuté un peu avec lui. Si, Saint-Élion, 7e en 2022, voilà, c'est ça. Voilà, donc 7e de la Saint-Élion, juste derrière, ouais, Manu Messa était 4e, Baptiste Chassagne était 3, ouais, ok, ouais, c'était costaud. Ouais. C'était costaud. Et donc Antoine est avec moi au niveau du deuxième ravito. Il y a un Allemand aussi qui m'a, je sais pas pourquoi, il m'a agacé en fait toute la course. Lui aussi est resté très longtemps avec moi. Et il était un peu grassouillet et il avait un dossard 49 très élevé, donc tu vois, l'un dans l'autre, ça m'agaçait. Aubin, bien sûr, était avec moi à ce moment-là. Un mec qui exposera plus tard, Peter Restorp, hein, qui est quand même un solide coureur, même s'il est retourné vivre en Suède, donc c'était un peu plus difficile pour lui cette année pour s'entraîner au dénivelé. Mais bon, c'est quand même un gars qui cote à 820 sur les ultras. C'est lui qui était derrière Aubin l'an passé quand il gagne l'ultra du haut gifle, hein. Et puis Jörg Piazza, un Italien du team La Sportiva, qui avait mis 13h15 l'an passé, donc j'étais avec ces mecs-là, je me suis dit, écoute Hugo, c'est le groupe parfait. Dans la montée qui suit le premier ravitaillement, en fait, on se met immédiatement à alterner de la marche-course, je me suis dit, bah ouais, c'était bien la peine de se forcer à courir dans la première bosse. On attaque la descente, alors Aubin était pas exceptionnel, il était un peu brassé et tout, il descendait pas très bien, je le relayais rapidement. Et en fait, on était en avance au Passo Tre Croci, on est passé en 2,37 au lieu de 2,40, donc j'ai dit bon. Par contre, après, on a été en retard sur la section suivante, donc je pense que j'ai un petit peu mal géré mes temps de passage, parce que pourtant, j'avais très très bien couru hein, jusqu'à la section suivante, donc c'était au kilomètre 30 et quelques, qui fait des Ravecchia, puis là, bah ouais, on passe en retard de 2 minutes 30. Je pense les temps sont... Je pense qu'il faudra que je me serve des temps que j'ai mis, si je reviens, parce qu'ils sont très bien, là, ces deux temps de passage. Et à la limite, il faudra que j'ajoute 3 minutes sur le premier, et puis 3 minutes... Je vais le marquer, d'ailleurs, en même temps, en fait. Donc, plus 3 minutes à R1... jusqu'à Mizurina. Voilà. Et vous allez voir, c'est après que le bas blesse. Alors, une fois qu'on a passé Federavecchia, en fait, on s'approche du ravitaillement où il y a la première assistance. Et à ce moment-là, on va se faire une bosse de quasiment 500 mètres de dénivelé, mais en fait, on va la faire en plusieurs fois. Alors, au début, c'est raide. Après, il y a des replats très rapides. Et après, c'est moins raide. Donc, je pense que le groupe de tête a dû marcher au début et tout courir. Pour moi, ça va pas se passer tout à fait comme ça. Donc, je vais évidemment marcher au début. Mais après, quand il faut recourir, ça m'est très pénible. Merde, je voulais afficher le résultat en même temps. Ah oui, c'est là. Le suivi live. Voilà, ça m'est très pénible. À ce moment-là, je suis un peu sorti de ma course parce que je trouve que ce rythme est très lent. En fait, finalement, il était relativement correct. Et je me dis, putain, ça va être long, je vais jamais revenir à l'avant et tout. Donc là, j'étais dans un doute. Voilà, au bout de 3-4 heures, j'étais déjà dans une mauvaise pensée. Et dites-vous bien que jusque-là, j'arrivais à m'alimenter tout à fait correctement, vraiment ce que j'avais prévu, c'est-à-dire une barre ou un gel toutes les 30 à 40 minutes. Donc une alimentation assez soutenue pour, avec en plus de la boisson, atteindre les 80 grammes de glucides à l'heure. Donc je l'ai fait sur la première heure, je l'ai fait sur la deuxième heure, je l'ai fait sur la troisième heure, et j'étais en train de le faire sur la quatrième heure quand soudain, au bout de... Je sais plus, c'était avant de descendre, donc... Oui, voilà, j'étais au sommet, je bascule pour descendre, donc j'étais juste derrière Antoine, juste derrière Aubin. Je m'étais dit, bah Hugo, t'as pas des très bonnes sensations, mais finalement, t'arrives à suivre Antoine, t'arrives à suivre Aubin, est-ce si grave? Je me suis dit, bah non, on s'en fout, on va voir la suite. Tu vois, je m'étais immédiatement rassuré mentalement. Et là, en fait, je prends une purée de patates douces, hop. Ça faisait un petit moment que j'avais pas mangé de trucs salés, je dis, bah allez, on part sur la patate douce. Et j'en avais envie, tu vois, je l'attaque comme ça, c'était l'heure de la manger, hop, je la prends. Je l'avale, et là, elle ressort. C'est-à-dire que j'ai eu un haut-le-corps, au moment où le produit est rentré dans ma gorge, j'ai eu un haut-le-corps, le truc est ressorti. Et tout de suite, en fait, à ce moment-là, j'ai senti que le ventre se serrait. Donc je me suis dit, putain, merde. Et j'ai senti que c'était un problème grave. Tu vois, que je pourrais pas manger autre chose tout de suite. Donc j'ai effectué ma petite descente et je suis arrivé à Mizurina 4 minutes je crois après Aubin. Donc attendez, lui il est passé en 4h10. Voilà, 4h10 alors qu'on avait prévu 4h05. Là je pense que ça peut être bien de garder 4h10 à Mizurina. Je me le note aussi. C'est un bon tempo, ouais. C'est un bon tempo. Et moi, puis ouais, voilà, moi je suis passé, donc avec ça, après je me suis arrêté un petit peu, voilà, pour un petit besoin naturel. Je me suis pas trop stressé du coup dans la descente. Ouais, je suis passé en 4h... Ah non, 4h11. Ah oui, bah écoutez, je pense qu'on peut rester sur un 4h08 alors pour Mizurina. Autant pour moi, putain, mais oui, je suis arrivé juste après Aubin à cet endroit-là. Et donc après, donc là il y avait le ravito avec l'assistance, donc à ce moment-là on a fait 42 km et demi, 2100 mètres de dénivelé, 4h11 de course, ce qui fait qu'on est à un tiers de la course. Et donc si on multiplie par 3, ça fait 12h30. Donc on était sur un rythme largement suffisant en fait. Même si on sait toujours qu'on peut partir plus vite que finir, parce que c'est le problème de l'énergie élastique. Vous l'avez au début, dans tous les cas, vous l'aurez pas à la fin, à moins que vous preniez des médicaments. Et ensuite, j'avais prévu une montée au refuge Oronzo. Alors, je l'avais prévu en 50 minutes. J'ai mis 1h01. Ça m'a pas inquiété plus que ça, parce que je sentais que je montais pas très fort. Mais là où j'étais rassuré, c'est que j'ai repris du monde en fait dans la montée de ce refuge. Déjà, j'ai vu Aubin partir devant, parce que je lui ai dit au ravito, vas-y quoi, je suis pas bien. Qu'en fait, il était dans le ravitaillement, il avait fini de se ravitailler. Il lève la tête pour repartir, il me voit, donc. Et quand moi j'arrive dans le ravito, je le vois. Et je lui dis, oh ben, vas-y, parce que là, ça va pas, quoi. Donc lui était reparti, moi, le temps de prendre deux nouvelles flasques, de dire à Beignat, le neveu de Beignat Marmisol, puisqu'il s'appelle aussi Beignat, que ça allait pas, voilà, il fallait éventuellement me passer un peu de coca, parce que avec le ventre, il y avait sans doute que ça qu'allait rentrer. Et puis de repartir, donc j'ai vu la frontale d'Aubin, en fait, au bord d'un lac, doubler un groupe de quatre coureurs, puisqu'il y avait Antoine Lambois-Martin devant moi, il y avait bah, l'Allemand, il y avait le Dossard 20 qui a fini... Il a fini où, ce con ? Ah, c'est Tobias Geyser ! Ouais. Putain, il a abandonné. Et il a abandonné ici. Alors ça, c'est bizarre. Parce qu'il est monté au refuge avec moi. Je pense qu'il a dû descendre du refuge après pour abandonner. Très étonnant. En même temps, lui, il a jamais couru avec des bâtons. Putain, il était nul, il savait pas quoi en faire, c'était impressionnant. Donc ouais, quand j'attaque cette remontée au refuge Oronzo, vous voyez, 50 minutes, il me semble que c'est quasiment le temps qu'a mis Hannes, donc le groupe de tête. Non, il en a mis 53. Il en a mis 53, ce qui veut dire que pour moi, il faut mettre 55 minutes en fait. Si je prends Aubin, il a mis 58 minutes. Donc ouais, 55 minutes est un objectif, est un très bon objectif, ouais. 55 minutes, c'est déjà un objectif solide, vous voyez. Ensuite, de ce refuge Oronzo, je peux gratter un peu de temps pour descendre à Simabank, parce que j'ai mis... Alors là, j'ai mis le même temps qu'Aubin, parce que je pense que j'ai effectué une très bonne descente. En fait, quand vous êtes au refuge, vous montez encore pendant 2-3 km, mais c'est du faux plat, donc vous montez en courant. Moi, j'étais pas bien, donc j'ai un petit peu marché. Mais je mets le même temps qu'Aubin, donc à mon avis... À mon avis, il y a moyen de faire un petit peu mieux, parce que je n'ai pas couru dans la montée. Je pense qu'on peut gagner 2-3 minutes, vous voyez, entre Simabanké, entre le refuge Oronzo et Simabanké, je mets 1h35, je pense que 1h32, c'est bien. Et c'est après qu'il y a eu les soucis. Alors, dans cette descente, donc je suis très très bien descendu, voilà, il n'y avait pas de soucis particuliers. Malheureusement, à un moment donné, mon pied rippe sur une pierre et je me tords la cheville droite. Sur le coup, j'ai eu très peur. J'ai marché un peu, tout en soufflant beaucoup pour voir ce qui allait se passer sur cette cheville. J'étais avec Antoine Lambois-Martin, j'étais avec l'Allemand. Parce que quand je l'ai rattrapé, en fait, il refusait de se faire lâcher, donc il est resté avec moi. Et on est parti pour... on a fini la descente ensemble, donc c'était moi qui faisais la descente devant. Un petit peu l'Allemand de temps en temps, mais Antoine n'était pas à l'aise, il n'appréciait pas spécialement ses descentes traumatisantes. Parce que c'est une descente roulante où on va assez vite en fait. Et ensuite sur le plat, pareil, c'est pas mal moi qui ai été le moteur, Antoine m'a un petit peu relayé. Mais l'Allemand était un peu à l'os derrière et on a rattrapé un coureur qui s'est accroché d'ailleurs jusqu'au ravito de Simabanké, à savoir que là en fait on se tape 6 km en ligne droite. De faux plat montant, c'est très dur. Voilà, le coureur, c'était Alès Sedlak. Lui, il était... il devait être un peu fou, parce qu'il est parti avec le groupe de tête. Et le groupe de tête, il l'a lâché... où est-ce qu'il a lâché le groupe de tête ? Ah, il l'a lâché avant Federavecchia, ouais, au niveau du passo très crotché, ouais. Il a quand même fait 30 bornes avec le groupe de tête. Je pense pas que ce soit très malin, mais bon. Et donc, il s'est accroché à nous. On était un petit groupe de 4 et je voyais dans le rétroviseur Hippolyte Péchy qui remontait. Patriote également, Hippolyte. Et à ce moment-là, quand on arrive à Simabanké, en fait, Beignat me dit que Aubin vient de repartir. Donc, je me dis, bah voilà, il a 3-4 minutes d'avance. Autant je le reverrai plus tard, c'est pas très grave. Et l'Allemand attaque à changer de chaussures, donc je me dis, bon bah lui il m'emmerdera plus, là ça va le repousser un peu loin. Antoine fait un ravito un peu long, dans le ravitaillement il y avait un coureur qui était assis, qui s'est ravitaillé longtemps, C'est un tchèque aussi. Voilà, Petr Hének, qui n'avait pas de bâton d'ailleurs, très très étonnant. Et il s'est ravitaillé longtemps. Il est reparti derrière moi. Et donc je repars après ce ravitaillement. Vous avez encore deux bornes cette fois-ci du faux plat descendant, donc ça fait plus plaisir. Et après, vous prenez sur votre droite, vous avez une longue montée qui va vous faire à peu près 500 mètres de dénivelé. Mais c'est une montée qui est pas très raide. Alors, c'est une piste forestière qui est un petit peu irrégulière, ce qui fait qu'il y a des sections où, malgré que je sois pas très en forme, j'ai pu courir. Et il y a des sections où j'ai marché, qui est parce qu'elles étaient raides, mais il faut le dire, il faut l'avouer, il y a quand même des sections où j'ai marché alors qu'il aurait fallu courir. Sur cette section, c'est là qu'Aubin s'est remis vraiment dans la course. Donc il a tout couru en fait dans la montée, ce qui est très impressionnant. Le groupe de tête, Hannes Namberger, Tom Evans et Yannick Noël et Andreas Reiterer, ont eux aussi tout couru. Jonas Russi aussi, je pense. Je vérifie, est-ce que Thibaut Garivier a également tout couru. Ouais, mais il a été un peu moins impressionnant. Et Aubin, en termes de kilomètre-heure... Ouais, Aubin est monté quasiment au même rythme que Thibaut Garivier sur cette section, donc vraiment, très très bien de sa part. Il est peut-être même monté plus vite, parce qu'en fait, après, il y a la descente, je pense que Thibaut descend mieux qu'Aubin. Enfin, j'en suis convaincu, en fait. Et donc voilà. Et en fait, dans cette montée, vous voyez donc ce que je vous décris ici. Alors, c'est évidemment les gens qui sont très forts. Hein. On parle d'Hannes Namberger, Tom Evans, Yannick Noël, Jonas Russi, Thibaut Garivier, Andreas Reiterer. C'est le top 6. Et puis Aubin, qui était en train de se relancer complètement dans la course. Mais derrière, vous avez par exemple Gauthier Bonnecarrère, qui a déjà 1 km heure de différence. Donc, il n'a pas dû tout monter. Vous avez Arthur Joyeux-Bouillon qui est monté un peu sur le même rythme que Gauthier, parce qu'Arthur était justement en train de lâcher maintenant qu'il avait fait la première moitié de course avec le groupe de tête. Vous avez Luis Ruiz qui arrive dixième. Voilà, lui aussi il est aux alentours des 8 km heure comme Arthur. Donc là c'est des gens... Ah non, Arthur est à 9. Ah oui, Luis Ruiz était complètement en train d'exploser, pardon. Et moi, pour vous donner un ordre d'idée, donc là, c'est où je me suis fait lâcher par Antoine Lambois-Martin. Ah bah, je suis quand même à 8,5. Mais qu'est-ce qu'il a branlé, Luis Ruiz, là? Il a été particulièrement mauvais, là. C'est vrai que je suis pas trop mal descendu. Parce que le souci, pour l'instant... Ouais, Antoine est monté à peine plus vite. Le souci, pour moi, était vraiment dans la montée. Par contre, dans cette montée... Même si je perds peut-être 2-3 minutes sur Antoine, Hippolyte revient sur moi, le coureur qui n'avait pas de bâton m'a repris depuis le ravito, je double Pere Aurel qui était assis sur un caillou, je double Jorg Piazza qui était en train de marcher, d'ailleurs il sera allé jusqu'au bout, hein. Il est allé jusqu'au bout, je vous le présenterai à la fin, sauf qu'il a tout marché. Dans cette montée, si vous voulez, il y a le... Le mental est vraiment... En fait, c'est dans cette montée que j'ai fait abstraction de la performance et du résultat. Regardez, le problème se déclenche au kilomètre 40 en redescendant sur Misurina, donc j'avale ma purée, elle ressort. Je sais immédiatement que je ne pourrai plus m'alimenter correctement. Lors de la montée au Rifugio Aranzo, effectivement, je me suis très peu alimenté, comme prévu. Au Refuge Ronzo, problème, c'est un point d'eau, sauf que il y avait uniquement que de l'eau. Pas de jus de fruits, pas de coca, pas de boisson énergétique, voilà, c'était que de l'eau. Donc ça m'a pas arrangé, parce que moi j'avais besoin de calories liquides. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de ravitaillements qui ont été relativement légers. La descente s'effectue correctement. Le plat s'effectue un petit peu comme je peux. Je sens que le corps est devenu un peu raide, mais ça reste tout à fait correct. Et en fait, c'est vraiment dans cette bosse où je sens que je suis nettement, j'ai un rythme qui est nettement moins élevé, et c'est normal parce que ça fait 3 heures que je m'alimente très très peu. D'accord ? Donc à ce moment-là, mes réserves glucidiques que j'avais plus ou moins entretenues en mangeant correctement au début de la course sont très entamées, voire deviennent quasiment inexistantes. Et j'ai un peu la tête qui tourne. Enfin, je suis très faible, je monte doucement. Et là, je me dis, putain, on est au kilomètre 70, il en reste 50. Et là, on est en train de taper dans le dur. Donc à ce moment-là, je sors complètement de l'aspect compétitif du truc, ce qui est normal. En fait, vous pouvez faire toute la préparation mentale que vous voulez. Si vous mangez 15 grammes de glucides par heure, vous êtes baisé. C'est tout, c'est comme ça. Vous pouvez pas commenter cette action sans la vivre, en fait. Vous n'êtes pas légitime. Vous pouvez pas dire, ah ouais, mais il faut bosser le mental, parce que là, le mental a flanché, du coup, il faut pas qu'il flanche, et comme ça, tu continues à avancer. Non, connard, 15 grammes de glucides à l'heure, t'avances pas, c'est tout. Sauf dans tes rêves les plus fous, sauf les athlètes qui se chargent. Et quand je dis ne pas avancer, c'est à mon niveau. Vous voyez, vous avez Low Carb Frenchy qui réussit le marathon en 3 heures sans manger de glucides. Moi, en fait, le marathon, je le fais en 2h45 en séance récup le lendemain d'un cross. Donc, est-ce que ça m'intéresse son expérience sans glucides quand il livre une performance de piètre qualité comme ça? Non, pas trop, tu vois, ça m'intéresse pas trop. C'est dans la rubrique fait divers, j'y porte très peu d'attention. Donc là, ouais, le manque de glucides se fait vraiment ressentir en côte. Donc, je... Voilà. Et j'écoutais le podcast tout à l'heure avec Stéphane Brognard et Nicolas Guineuf dans Let's Try. Et effectivement, j'avais l'impression d'avoir l'allure juste, comme dirait Stéphane, parce que je montais de manière correcte, mais on était plus dans le rythme de la compétition du Lavaredo. Par contre, on était dans un rythme pour finir de manière correcte. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon Hugo, ça va pas, c'est foutu, tu vas rater ton objectif. Ça, c'est clair et net. Donc, j'en ai fait le deuil, plus ou moins immédiatement. Et ce qui m'a sauvé, en fait, c'est que Hippolyte m'a rattrapé sur le sommet, vraiment avant le sommet. Et je me suis un petit peu accroché à lui parce qu'il m'a pas doublé très vite. Je me suis dit, attends, vas-y, on est au sommet, là. Enfin, on y est presque, on y est bientôt. Force-toi à trottiner un petit peu derrière Hippolyte. Ça m'a remis un petit peu dedans. Et puis, on est rapidement, du coup, passé sur le plat, puis la descente. Et à ce moment-là, j'ai fait le point, je me suis dit, parce qu'après je suis descendu, puis je l'ai doublé dans la descente, en fait, je descendais mieux que lui. Je me suis dit, finalement tu descends encore bien, alors ok, tu montes, enfin t'es à l'arrêt, quoi, mais la descente est correcte. En fait, la descente, tu ne pourrais pas faire beaucoup mieux, la descente est correcte. Alors, c'est pas vrai, en fait, avec le manque de glucides, vous courbaturez plus vite, et du coup, dans la descente aussi, vous êtes impacté. Mais je continue à descendre très très bien par rapport aux autres. Par contre, en montée, oui, c'était flagrant que j'allais moins vite. Et donc, je me dis, attends. L'objectif de performance, 12h45, 13h, il est raté, ok, on en fait le deuil. Tu ne reviendras jamais dessus. Tu vois, j'étais en train de faire des pointages intermédiaires avec ce qui restait. Je me dis, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste deux trucs. Déjà, il y a tous les gens qui te suivent. Enfin, trois trucs. Il y a tous les gens qui te suivent, en fait, ils vont pas comprendre si t'abandonnes. Alors, je savais pas quelle place j'avais, mais je me doutais bien que j'étais pas 300e. Je ne connaissais pas ma place. Et je me dis, je vais quand même finir pour... En plus, là, c'est 7h du matin, les gens se lèvent, ils regardent le live, ils doivent me voir dessus, ils comprendraient pas que j'arrête, tu vois. Même si je suis pas bien, je vais continuer d'avancer. De toute façon, il y a rien qui m'arrête. Il fait beau, j'avance. Et puis, je me suis dit, vu les estimations que je suis en train de faire, pour l'instant, je suis encore dans les clous pour obtenir 760 de cotation à la fin de la course. Ce qui va m'assurer, puisqu'on est sur un format 100 miles, une qualification à l'UTMB 2025. Et je me dis, ça, faut pas passer à côté. Donc tu sauvegardes ça, c'est sûr. Et après, il y avait une petite cerise sur le gâteau à aller chercher, où là, du coup, l'esprit redevenait un petit peu compétitif. Je me suis dit, sur les estimations, il y a moyen que tu mettes entre 13h30 et 14h. Et tu devrais avoir plus de 800 de cotation. Et cette cotation au-dessus de 800 sur un effort 100 miles devrait augmenter ta moyenne sur les efforts en 100 miles pour la faire passer au-dessus de 800. Et à ce moment-là, tu ne payerais plus tes dossards des courses by UTMB sur les formats 100 miles. Donc j'avais ces deux carottes, en fait. Du coup, je trottine, j'avance, voilà. Et là, en fait, il faut que vous sachiez entre ce kilomètre 77 à Malgarastua et le kilomètre 84 à Valtravenanzes Initio, c'est très technique, en fait. Enfin, la descente, après la remontée, ça va. La descente est très technique, c'est la première fois où le parcours est technique. Donc vous avez, allez, la section elle fait 7 bornes, vous avez 5 bornes de descente technique, donc c'est un petit single, et il y a beaucoup de pierres à éviter, beaucoup de racines à éviter, le single serpente énormément, vous devez parfois marcher d'ailleurs dans la descente, donc c'est très surprenant en fait, vous avez 5 km assez techniques à ce moment-là. Et vu qu'avant c'était plutôt des grandes pistes ou des chemins faciles, vous êtes surpris. Personne ne me double. Et je ne rattrape personne, donc je ne m'inquiète pas, je continue mon bonhomme de chemin, et j'entame ma montée au Col Gallina. Enfin, à un sommet, je ne sais pas lequel, et après on redescendra sur Col Gallina. Et là, je sais que j'ai prévu d'arriver au Col Gallina en 10h10. J'estime un peu le bordel, je me dis, bah en fait je vais être en retard, mais pas de beaucoup. Donc finalement, je suis un petit peu rassuré, et j'entame la montée assez positif. En plus, je vois donc 3 coureurs devant moi qui sont à 3 minutes et 5 minutes. Et du coup, voilà, je les garde en visuel, on voit loin. Et par contre, on va arriver au deuxième problème majeur. Premier problème majeur, c'est que je ne pouvais pas m'alimenter comme je le voulais. Et vous allez voir le deuxième problème majeur, parce qu'en fait, au milieu de cette montée, si vous regardez bien sur le profil, il y a des replats. Et en fait, en 2018, on avait un joli chemin qui longeait une rivière pendant très longtemps. Alors c'était une assez grosse rivière, hein. On l'a traversée avec un pont. Mais notre chemin était dans la forêt et il longeait la rivière. Et là, on est arrivé dans le Val Travenanzes, comme il l'appelle. Je ne sais pas si je prononce correctement. Donc ce vallon. Et le problème... la rivière a débordé. La rivière a carrément débordé sur plusieurs kilomètres. Elle a pris toute la place dans le vallon. Du coup, on n'a plus de chemin. Et du coup, il faut qu'on... 1h55. Il faut qu'on coupe cette rivière plusieurs fois, alors je sais plus si on l'a coupé 6, 7 ou 8 fois, voilà, quasiment une dizaine de fois, entre 5 et 10 fois on va dire. Et le souci majeur, c'est que là, c'est une grosse rivière, c'est une haute rivière, donc en fait vous ne pouvez pas l'éviter, vous êtes obligé de la traverser avec les deux pieds dedans, hein. Il y a 5-6 foulées à faire à chaque fois. Et en fait, bah, suivant comment vous mettez votre pied, vous avez de l'eau soit jusqu'au milieu du mollet, soit jusqu'au genou. Vous traversez cette rivière 6-7 fois en l'espace de 10 minutes, ou 15 minutes, voilà. C'était assez concentré quand même, on va dire 15 minutes, c'était un peu long. Et donc, pendant 15 minutes, vous avez les chaussures complètement trempées. Parce que tu mouilles tes chaussures une fois, et après tu trottines, et au bout d'un moment elles sèchent en fait. Sauf que là, elles sont mouillées pendant un quart d'heure. On repasse dans la rivière. Et si vous voulez, ma semelle orthopédique, donc j'ai une semelle orthopédique à l'intérieur de laquelle le podologue a fait un trou parce que j'ai une boule sous le pied. C'est une fibre de collagène, donc ça peut s'opérer, mais j'en vois pas l'intérêt parce qu'avec ma semelle orthopédique, tout va bien. Et la boule sous le pied, du coup, glisse dans le trou de la semelle, et ainsi la boule ne frotte pas. Et donc je ne déclenche pas d'inflammation sous mon pied gauche. Le problème, c'est que cette semelle avec le trou, lorsqu'elle a été baignée dans la rivière, ma chaussure, il y a eu un appel d'air, puisque tout était mouillé, la chaussette, le pied, la chaussure, enfin voilà. La semelle s'est collée à la chaussette et au pied. Et elle est restée collée tout le temps que je passais les rivières. Et quand elle s'est décollée, en fait, il y a eu un effet succion. Et du coup, ça a découpé la peau tout autour du trou. Ce qui fait que j'ai même pas eu, en fait, j'ai pas eu d'ampoule. J'ai eu un espèce d'ouvre-boîte qui m'a enlevé la peau sous le pied, voilà, sur un rond. Donc dans la montée, en fait, je l'ai pas senti pendant que ça s'est formé, parce qu'après on continue de monter jusqu'à un sommet. Et là où je l'ai senti, c'est quand on passe la bosse là et qu'on va redescendre sur le col Gallina. Et là, j'étais tout content parce qu'il y avait un Espagnol qui m'avait remonté et finalement je m'étais accroché à lui. Hippolyte était revenu sur moi, mais finalement il avait ressauté. Donc j'étais tout content. Et on attaque la descente, je me dis, putain, l'Espagnol, je vais le poutrer, voilà, je vais reprendre ma place. Et puis, j'attendais de voir où était passé Antoine Lambois-Martin, Petre, machin truc, là. Et j'attaque cette descente, et en fait, tout de suite, j'ai eu très très mal sous le pied. Alors, évidemment, sur le coup, moi, je me suis dit, putain, merde, c'est une ampoule. Donc, surtout, je l'ouvre pas, parce que si j'enlève ma chaussure et que je vois une ampoule, en fait, je vais jamais avoir envie de la remettre. Je l'enlève pas, quoi. Et j'arrive au ravitaillement du col Gallina, donc j'étais... j'avais rattrapé l'Espagnol, hein, finalement, mais j'avais pas pu le doubler. Et à ce moment-là, il y a au ravito Louis Travaillot, donc, qui gère les athlètes au sein de NAC. Comme nous, on est géré par Baou, par exemple. Et William, quoi, le patron de NAC qui m'encourage. Alors en fait ils étaient là pour j'imagine Arthur puis d'autres coureurs qu'ils avaient sur la course, bah Hannes par exemple, puis ils sont restés voir Aubin, et je leur demande, en fait je leur dis, bah il est passé où Aubin? Ils me disent, putain, il est en super forme, il est remonté dans le top 10, donc j'étais content pour lui. Et après je leur dis, bah tiens, tant qu'à faire, je suis combien moi? Ils me disent, bah t'es 15e. Bah, je dis, ah bon? Bah, ok. J'étais étonné, hein. Je pensais que j'étais entre 20 et 30. J'étais vraiment très très étonné d'être 15e. Et ça m'a fait du bien, mais le problème, c'est que j'avais mal sous le pied. Et quand je vous dis que j'ai mal sous le pied, c'était je posais le pied, je faisais une grimace, quoi. Donc vous imaginez bien que sur les 22 km qui restaient, c'était pas facile. D'autant plus que du col Gallina, on trottine un peu dans une forêt. Donc là, il y a eu deux bornes où j'ai trottiné comme je pouvais, mais j'allongeais pas la foulée, rien. Enfin, j'étais vraiment freiné par ce pied. Après, il y a la montée au refuge Aveiro qui est très très dur, hein, vraiment très pentu, plein soleil en plus. Et là, j'étais pas top top parce que les glucides, bah c'était toujours pas ça, quoi. Il y a toujours pas. Et après, vous avez une descente sur le Passo Gio. Alors là, c'est un passage très technique, en fait. À la fois la montée, mais la montée, qu'elle soit technique, en fait, on s'en fout. Mais la descente et le replat avant le Passo Gio, très, très technique. À ce moment-là, vous êtes sur un tout petit sentier avec plein de cailloux. Donc, vous pouvez pas courir. Enfin, vous alternez la marche et la course parce que y a beaucoup trop de cailloux. Puis, il y a beaucoup de touristes, en fait. Il est... donc là, moi, j'avais fait quoi, 10h40. Voilà, il était 9h30 passé quand je suis au col Gallina, donc voilà, Passo Gio, il était 11h, et vous aviez beaucoup de touristes, même s'ils avaient la gentillesse de s'écarter un petit peu, le chemin n'est pas très large. Donc c'était parfois compliqué, bon, je voyais toujours personne devant, mais je continue à voir personne derrière. Et au moment où j'arrive au Passo Gio, donc là c'était Altra qui était venu me ravitailler parce que c'était compliqué de faire Gallina et Passo Gio, donc Beignat n'avait pas fait, enfin on lui avait dit de pas le faire. Au moment où j'arrive au Passo Gio, bah je pouvais toujours pas manger, donc Altra était monté pour rien. Mais on a fait des belles photos. Et là je repars et je me dis, bon bah putain, il reste 4, quoi, 10. C'est très exactement à ma montre, j'avais 16 bornes, je crois, depuis le Passo Gio. Et là, je me dis, ben, allez, il faut aller jusqu'au bout, mais putain, si l'ampoule pète, parce que j'étais encore persuadé que c'était une ampoule, je vais vraiment avoir mal, parce que l'an dernier, j'avais une ampoule au gros orteil, elle avait explosé dans la descente de la Flégère à Chamonix, et effectivement, après, je boitillais, je pouvais quasiment plus poser le pied, donc tu te trottines à peine, quoi. Tu te sers de ta jambe comme d'une jambe de bois. Et je me suis dit, faut surtout pas qu'elle pète, parce que là, je serais dans la merde, là, tout secours, là, à la fin, quasiment. Alors, pas tout à fait, en fait, il y a une petite bosse, juste après le Passo Joe, qui doit faire 200 mètres de dénivelé, mais en fait, c'est vraiment un mur. Et encore une fois, depuis le Passo Joe, c'est très technique, le chemin, avec beaucoup de cailloux, que vous devez contourner, passer, etc. Enfin, vous courez pas très très bien, parce que vous évitez la technicité du terrain. Et là, il y a une remontée particulièrement dure. Et qui je vois dans cette montée? Devant moi, Pau Capel, qui est rôti, il avance plus trop, donc je le rattrape au sommet de la montée. Après, il a quand même un peu trottiné hein, sur les parties roulantes jusqu'à l'arrivée. Mais là, je l'ai bien rattrapé. Et par contre, qui est-ce que je vois revenir derrière moi? Putain, c'est l'Allemand. Hein, il s'était refait la cerise, l'animal, et voilà, il était en train de me chasser. Du coup, ensuite, on attaque à descendre. Bon, il y a une toute petite montée après, mais elle était vraiment pas longue, je pense que j'ai mis moins de 10 minutes en marche bâton pour la montée, puis c'était pas très très raide. Et on attaque à descendre, voilà, sur le refuge Croda da Lago et puis Cortina. Alors là, c'est très sympa parce que, enfin, moi en tout cas, j'ai apprécié. Vous avez toute votre section de haute montagne, là, le Col Gallina, Rifugio Avero, Passo Gio, tout ça. Et d'un coup, en fait, et vous contournez de magnifiques falaises. Et d'un coup, à la fin de cette dernière bosse, vous avez une vue plongeante sur Cortina, déjà, donc vous voyez Cortina. Alors, vu que vous faites une ligne droite de quasiment 12 km, ça vous paraît loin. Mais il y a bien 12 km, donc faut pas s'inquiéter. Mais effectivement, vous voyez Cortina au fond de la vallée, vous vous dites « Ah putain, oui, quand même, c'est un peu loin ». Et vous voyez le refuge qui est trois bornes en dessous. Donc vous le voyez pas très loin, vous entendez presque déjà la musique, parce qu'il y a un peu de musique au refuge, très bonne ambiance à ce refuge. Et le terrain en fait n'est plus du tout technique à partir de ce moment-là. Donc il a été technique entre le kilomètre 77 et 82. Il a été, c'était chiant avec la rivière, mais j'espère que ce sera peut-être résolu, je sais pas, ils ont peut-être eu une crue à la fin de l'hiver, j'en sais rien. Ce sera résolu pour des années futures. Et c'est technique au niveau du Col Gallina jusqu'au un peu après le Passo Joe, donc on va dire pendant 10 km. Voilà, donc en gros vous avez 15 km de technicité quoi. Et donc cette descente se fait intégralement en courant, voilà, très agréable. Passage au refuge, donc c'est là où l'Allemand m'a rejoint. Bon, il allait plus vite que moi, donc à un moment donné stop, hein. De toute façon j'avais mal aux pieds, donc je pouvais pas aller plus vite parce que encore une fois je vous le dis, j'avais très peur que l'ampoule explose. Alors en fait c'était pas une ampoule, hein. La peau était simplement partie, donc je courais sur la chair, ce qui fait que c'était rouge vif, ce qui fait aussi qu'il y a pas mal de sang qui est parti dans la chaussette parce que ça a dû saigner à un moment donné, même si après c'était tout sec au bout d'un moment. Et je fais cette descente, de manière correcte, pour franchir la ligne d'arrivée. Alors la petite déception, évidemment, le coup de la semelle, je l'avais pas vu venir. Pourtant, le podologue m'avait prévenu, il m'avait dit, ouais, des fois, il y a un effet succion, je sais pas quoi. Et en fait, vu que j'ai eu aucun souci, la semelle avec le trou, je l'ai depuis un an. Sauf que depuis un an, je n'ai jamais vraiment couru dans l'eau avec ma semelle... Ma semelle trouée, pourquoi? Parce que je l'ai utilisée à Lager, je l'ai utilisée à l'UTMB, à Tignes bien sûr, donc il faisait beau. Et les quelques jours où j'ai utilisé ma semelle sous la pluie, donc il y a eu 2 jours de pluie je crois à Tignes, et puis il a plu aussi cet hiver hein, bien sûr. En fait à chaque fois c'était des sorties de 1h, 2h, 3h sous la pluie, c'était pas une pluie non-stop. Et en fait quand vous êtes sous la pluie, ça vous mouille évidemment. Mais vos chaussures ne sont pas forcément toujours trempées, suivant comment il pleut, comment est le terrain, etc. Donc parfois il pleut, puis votre chaussure est juste un peu mouillée, mais vous n'avez pas cet effet qui est de, vous plongez votre pied dans l'eau, vous plongez complètement votre pied dans l'eau, et du coup la semelle, il n'y a plus d'air, donc la semelle colle à la peau. Enfin, colle à la chaussette, à la peau, quoi. Et donc j'avais jamais fait de traversée de rivière avec ma semelle, effectivement, donc je m'étais jamais rendu compte du problème. Ce qui fait que ça a été la découverte, même si pendant la pastourelle il avait beaucoup plu, en plus j'avais vraiment les mêmes chaussures et tout. Il y a eu quelques traversées de rivière à la pastourelle, c'est vrai, mais elles étaient vraiment à la fin du parcours, dans la dernière heure, Et il y en a eu une, hein, je suis même pas sûr d'avoir mis les pieds dans l'eau. Alors ok, j'avais les pieds mouillés, mais c'est plus au fur et à mesure du temps, il a plu, plutôt que vraiment d'un coup, hop, le pied sous l'eau complètement, et on y repasse 3, 4, 5, 6 fois. Donc voilà la très grosse différence, selon moi. Alors après, et donc ça vraiment, c'est bon, ça fait un peu chier, parce que ne pas pouvoir descendre correctement depuis le col Galina, je pense que j'ai facilement perdu 10-20 minutes dans l'affaire. Hein. Je pense que j'aurais été capable d'attraper bah, au moins le tchèque. Mince, comment il s'appelle Petr Hének. Voilà, qui finit en 13h39-41. J'aurais pu le doubler. Je pense que j'aurais terminé 12e du coup à sa place, entre lui et Antoine Lambois-Martin, qui a mis 13h27. Je pense pas. D'ailleurs, c'est amusant, c'est lui, c'est le seul. Il a une cotation à 825 et il a coté à 824. Le mec le plus régulier du monde. Je pense pas que j'aurais pu faire mieux que lui. Voilà, j'aurais sans doute fini en 13h30, 35, 3, 4, 5, 6 minutes derrière lui, à la 12e place, et ça m'aurait donné une cotation à peu près de 820, 818, un peu comme à Leger l'an passé, qui est une course relativement aboutie. La grosse déception, bah, c'est évidemment les maux de ventre hein, qui s'expliquent facilement, hein, c'est la petite diarrhée que j'avais eue. Alors regardez, si on fait... si on veut des dates, parce que je sais qu'il y a quelques médecins qui m'écoutent sur le Patreon... Déclenchement de cette phase de diarrhée, vendredi 14 juin à Samoin. J'ai été malade et j'ai décalé mes entraînements jusqu'au mardi 18 juin. Mercredi 19 juin, j'effectue une reprise de l'entraînement. Jeudi 20 juin également, je refais une vraie séance intense. Samedi 22 juin, donc 8 jours après le déclenchement de cette petite phase de diarrhée qui a duré de manière aiguë, on va dire 5-6 jours quand même. Ce qui est pas mal. Et en fait, j'ai cessé de m'inquiéter parce que samedi 22, je réussis un entraînement intense. Donc c'était une sortie où j'ai fait 30 minutes de SV2 et 2 fois 5 minutes en côte. Et je me suis bien alimenté, mais cette sortie faisait 1h15. Elle faisait pas 13 heures comme le Lavaredo. Mais le ventre avait l'air d'aller mieux. Sauf que bah, le Lavaredo part le 28, donc 6 jours après, très précisément 14 jours après les premiers signes de la diarrhée. Et donc, le vendredi 28, quand je suis parti, j'ai couru à mon rythme, je me suis alimenté comme il le fallait, sauf que le ventre était sans doute en train de finir de se réparer. Et donc il a accepté 1 heure, 2 heures, 3 heures, et la 4e heure, il a pas pu l'accepter, il a dit non. Voilà. Pour le timing fâcheux. Alors, il faut préciser aussi que Pocapel était malade un petit peu pendant la course. Anthony Costa a eu le même virus que moi pendant la course, donc évidemment il a abandonné, hein, ça paraît logique. Et il me semble qu'Hippolyte était un peu... il avait un peu subi le même virus. Voilà. Alors pour la conclusion, il y a quand même ce départ un poil trop engagé, voilà, donc il fallait décaler un peu de 3 minutes. Ça c'est du détail, en fait c'est dur aussi de juger, parce qu'après j'ai... pas pu m'alimenter correctement, donc en fait, au moment où ça aurait dû revenir, un peu comme Aubin, hein, qui, après la mi-course, s'est remis à courir en côte, bah moi, j'ai pas pu expérimenter ça, parce que comparé à lui, je pouvais pas m'alimenter. Alors, lui aussi, il s'alimentait pas tout à fait comme il voulait, mais il a mangé à peu près 3/4 de ce qu'il avait prévu, entre 2/3 et 3/4 peut-être, ce qui fait qu'il était quand même relativement haut en glucides, enfin haut. Il était à 50 grammes. Il avait prévu 60-70 et il était à 50. Je pense que c'est une bonne fourchette. D'ailleurs, je suis pas tout à fait convaincu que le 80 grammes de glucides à l'heure soit bien sur un effort aussi long. Je pense d'ailleurs à l'UTMB réitérer mon ravitaillement de l'an passé qui était à 60 grammes de glucides à l'heure. Peut-être essayer de monter à 70, mais surtout pas plus. Voilà, que dire de plus ? Malgré tout, le cardio est pas si dégueu. Il s'est bien amélioré, je pense. À voir sur l'UTMB, hein, du coup. Je vous ai mis les courbes pour comparer par rapport à d'autres efforts plus ou moins longs. Donc vraiment, je devais être vraiment en très bonne forme, hein, parce qu'on sort des stats qui sont intéressantes, malgré cette petite fin de maladie, et puis bien sûr la blessure au pied. Bon, le mental, hein, bien sûr, pour y arriver malgré tous ces problèmes costauds. Le textile Altra, parce que cette année on a un nouveau textile, bon ben voilà, hein, sur 13h45 il n'y a eu aucun souci. Alors évidemment je l'avais testé et retesté à l'entraînement, à la pastourelle, à l'éco-trail, mais voilà, là j'ai passé une nuit dehors avec le t-shirt, qui était correct. Évidemment, s'il fait froid, faudrait revoir ça en mettant un pull, hein, bien sûr, mais pour une nuit classique, ça va. J'ai même pas eu besoin de mettre la veste. Et les points négatifs, bah bien sûr, faut que je corrige cette semelle ortho, là. Faut qu'on, je sais pas ce qu'il faut faire, mais faut plus qu'elle fasse ça. Ceci dit, est-ce qu'il y a besoin de s'inquiéter ? Peut-être pas trop, parce que l'UTMB, je ne traverse pas de rivière, normalement. Ah con, enfin oui, non, il n'y a pas de rivière. Ne pas tomber malade, alors ça, bon, ça c'est facile à dire, mais t'as beau prendre toutes les précautions, bon, bah des fois t'es exposé puissance 1000 à un virus, bon, bah, tu le prends dans la gueule. Les seules choses que je vois, bah, c'est que ça encourage à toujours plus aller vers une santé au quotidien, mieux dormir, mieux manger, en essayant d'améliorer des petites choses pour mettre toutes les chances de son côté, mais encore une fois... vous êtes face à quelqu'un de malade, c'est pile poil le jour où vous êtes entraîné, bon bah voilà, vous tombez malade. J'ai rechargé en huile essentielle de Ravinzara. Et en rechargeant, donc j'achète mes huiles essentielles sur le site La Compagnie d'Essence. J'ai vu qu'ils avaient créé un petit complexe immunité. Donc évidemment, il y a du Ravinzara dedans, mais il y avait d'autres trucs, il y avait du citron, je sais plus quoi. Et ça coûtait pas très cher, donc j'en ai pris un flacon pour essayer. Et puis le plus gros point que je note, c'est quand même de revenir, parce que malgré toutes ces mauvaises nouvelles, finir à une telle place avec un tel chrono, c'est qu'il y a moyen de faire vraiment une très très belle course, comme Aubin par exemple, qui est arrivé en 13h02, même si je pense que... Je reste convaincu, hein, que les 12h45 sont possibles, puisque si Aubin fait un bilan de sa course, il n'est pas satisfait de quelques points. Par exemple, il a encore fait une Aubin. Alors, qu'est-ce que c'est faire une Aubin ? Bah, c'est que quand tout va mieux, après la mi-course, il s'est senti mieux. Immédiatement, il a accéléré très fort dans la bosse et il a mis beaucoup d'énergie à ce moment-là, une énergie qui lui a manqué un peu par la suite. Donc, pour lui aussi, il y a un effort à lisser pour une meilleure performance finale. Et enfin, pour s'amuser, j'ai pris un petit peu de temps pour vous faire un tableau où je vous ai mis les 38 favoris qu'il y avait au départ. On se rend compte qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 qui n'ont pas pris le départ. Donc vous voyez, on a 25% des favoris qui ne prennent pas le départ. Quand même pas mal. Et vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 qui ont abandonné. Donc 17-18% d'abandon chez les favoris, ce qui est à peu près la moyenne en fait du peloton, puisqu'on a quasiment 400 abandons pour 1700 coureurs. Je vérifie les chiffres. Et en fait, si les premiers sont restés premiers, Tom Evans, Andreas Reiterer, Thibaut Garivier, Hannes Namberger, bon, à la limite, Pocapel, c'était le 7e au départ, il est le 18e à l'arrivée, Jonas Rusi, 9e au départ, 4e à l'arrivée, Luis Ruiz, 13e au départ, 10e à l'arrivée. Yannick Noël, Arthur Joyeux-Bouillon, Aubin Ferrari, c'est des gens qui réussissent. Et là, vous avez Jorg Piazza, l'italien de la Sportiva, qui a une cotation à 852, qui a fini, tenez-vous bien, 1354e. Donc c'est-à-dire au moment où je le double, je sais pas ce qu'il a foutu après. Je pense qu'il s'est arrêté de dormir à un ravitaillement. Mais bon, je le connais pas du tout. Je pense que c'est un Italien. Il doit venir des Dolomites avec un nom comme ça. Enfin, j'en sais rien, mais ce serait intéressant de savoir pourquoi il finit aussi loin. Parce que même en marchant, depuis où il était, il aurait fini, je sais pas, dans les 500 premiers, je pense. On a Riccardo Borgiali. Alors, ça, c'est très étonnant. Riccardo Borgiali qui finit 47e. Le coureur du team New Balance. Je l'ai jamais vu. Attendez, je vais essayer de voir un petit peu quel parcours il a eu. Parce qu'il réalise une place qui est médiocre. 15h55 pour quelqu'un de sa classe. Il était avec moi. Il était juste derrière moi au premier ravito. Il était 3 minutes derrière moi au Passo Tre Croci. Au kilomètre 42, il était 9 minutes derrière moi. Et après, il a pas mal ralenti. Ouais. Il met 1h22 entre Col Gallina et Passo Gio. Ah oui, il s'est caressé là. Parce que moi, j'ai mis 1h14. Allez, c'est marrant, j'ai l'impression qu'il l'a fait en sortie longue. Très bizarre. Gauthier Bonnecarrière qui avait la 25e cote au départ qui termine 7e. Ça, c'est la très bonne surprise. Et je l'avais annoncé hein, qu'il était costaud. Peter Restorp, 19e. Antoine Lambois, 11e. Là, il n'y a pas de souci. Christian Modena, 50e. Alors, ça aussi, c'est très bizarre. Christian Modena, pourquoi il est 50e? Je vais regarder ce qu'il a fait. Ah, il était loin dès le début, hein. Il passe en 1h46, moi j'étais en 1h35 au début, donc il est parti très loin, très lentement. Il est parti très lentement, et il a fini peut-être un peu plus fort que... Oh, putain, il s'est arrêté 5 minutes au dernier ravito, il devait être sec. Ouais, c'est assez étonnant, moi je le connais pas aussi. Ivan Rastovec, alors... Lui, avec Aubin, on l'a vu. Il arrive avec son dossard 30 dans le SAS Elite. Déjà, le mec se pointe dans le SAS. C'est vraiment le premier SAS. Hein. On avait un SAS du dossard 1 à 50. Donc, vraiment le premier SAS. Le mec se pointe avec un énorme sac à dos. Mais quand je dis un énorme sac à dos, je pense qu'il pouvait facilement avoir une tente à l'intérieur. C'était un sac à... Limite, c'était genre les gros sacs à dos de Wa, tu vois. C'était pas des sacs à dos de randonnée, mais presque. Donc ça, déjà, ça nous interpelle. Deuxième truc, le mec est pieds nus. Il était pieds nus. Mais comment une personne pieds nus peut posséder une cote de 821? Bon, après, il a fini 1236e. Ça m'étonne pas, hein, pieds nus. Alors, je sais pas, peut-être c'est quelqu'un qui s'est récemment mis à courir pieds nus. Je comprends pas le délire. Après, on a Matiš Kakulović, qui avait une cote légèrement supérieure à moi, qui m'est fini 31e. Et puis, pour eux, c'est pas des contre-performances. Ils arrivent 21 et 22e, Daniele Calandri et Mathias Deutschbauer, qui étaient 37 et 38e au départ, qu'on fait une course honnête. Alors, je vous ai mis les cotations pour le top 20. Et moi, les cotations, elles me perturbent. D'ailleurs, c'est ce qu'on va dire ce soir, jeudi 4 juillet, dans la bande à des plus, c'est ce que moi je vais matraquer, c'est qu'il y a un réel problème en fait. Hannes Namberge, en 11h57, a obtenu une cotation de 927. Pour rappel, la plus haute cotation c'est 1000, et ça correspond au record du monde du marathon. Parce qu'on estime que le record du monde du marathon est très difficile à battre, vu que ça fait des dizaines d'années que les meilleurs Kenyans essayent, qu'ils sont tous professionnels depuis leur plus jeune âge, qu'ils ne font que courir, manger, dormir, que même parfois ils se dopent, et donc on considère que c'est la meilleure performance humaine réalisable en endurance, le marathon. Et donc on essaye de faire coller un index par rapport à ça, alors on peut même déjà débattre de ça. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a une peur de côté haut, et Hannes Namberge n'obtient que 927. Quand je vais de 927 à 1000, j'obtiens une différence de 7%. Et quand j'applique cette différence de 7% sur un chrono de 12 heures, ça me donne 50 minutes. Et donc, on pourrait voir quelqu'un qui courrait en 11h10 quand Hannes Namberger court en 11h57. Mais qui est cette personne? Qui est-elle? Existe-t-elle vraiment? Et tout ce week-end, c'était la foire à la saucisse, exactement dans le même thème. Vous avez Jim qui s'approche de 4 minutes de son record personnel de la Western States. Il obtient 933. Je crois que le vainqueur du marathon du Mont-Blanc, Elhoussine El-Azaoui, bah, c'est pareil. Mais comment faire pour ne serait-ce qu'avoir 950, 960, 970, 980 en fait? Là, pour moi, ce que fait Namberger, ça vaut 970. Et derrière, vu que l'intégralité des cotations du peloton dépendent de la cotation du premier, derrière, ça monte les cotes de tout le monde, en fait. Et si vous jugez depuis 2 ans, comme moi, vous avez sans doute remarqué que les cotes sont systématiquement baissées sur les mêmes parcours. Cela, je rappelle, le Lavaredo, c'est quand même pas compliqué, c'est le même parcours depuis 2014. Bah, vous avez vu, si vous faites depuis 2 ans les mêmes courses, vous avez vu que vous avez peut-être amélioré votre temps et que vous avez obtenu une cote inférieure à l'année passée. Et bah, c'est le problème de ne pas vouloir donner assez au premier. Et encore une fois, les courses ne vont pas vraiment de plus en plus vite. Hein. Alors, le plus marrant, c'est le 90 du Mont-Blanc, là, qui vraiment, vraiment s'est fait bien niquer. Si je cherche Dimitri, en réalisant 10h44, ce qui est une amélioration du chrono de l'an passé d'une vingtaine de minutes, il a eu 916. Ça veut dire que potentiellement, on peut mettre 84 points de mieux que lui. C'est énorme. C'est énorme. Attendez, je vérifie, mais l'an passé, je crois que Germain Grangy avait aussi... Ah non, mais le parcours avait été modifié. Ouais, il avait pris 910 aussi. En fait, on donnera jamais 1000, quoi, je sais pas. C'est très bizarre. Très bizarre, très étonnant. Voilà. Et ben voilà, petite conclusion. Il n'y a plus qu'à réparer les petits bobos. Et puis on repart sur l'UTMB fin août à Chamonix. Allez, je vous laisse là-dessus. Prenez le temps de lire le document et pas simplement écouter l'audio. Puisque je n'ai pas lu le document, donc vous aurez d'autres informations dans le document qui sont très intéressantes. Allez, bon week-end.